je m'appelle Théo et je suis parti en Thaïlande en décembre 2018. J'étais parti sur une année sabbatique au Cambodge à la base pour y apprendre une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre. Donc j'avais pris un aller simple pour Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Et puis après 2 semaines et demie là-bas, je me suis dit finalement, je rencontre beaucoup de personnes qui voyagent et qui sont des nomades et qui ne restent pas dans un seul pays. Alors je me suis dit, eh bien, pourquoi pas tenter cette aventure et partir explorer de pays en pays. Donc je suis arrivé en Thaïlande le 3 décembre, après ces 2 premières semaines au Cambodge qui ont un petit peu été mon dépucelage asiatique, si je peux le dire ainsi.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. 2 fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Théo raconte la Thaïlande. Avec lui, on a parlé de bambou, de cinéma et de street food.
J'ai bourlingué à travers le monde. Une fois que j'avais décidé de vraiment être nomade et découvrir l'Asie du Sud-Est, je m'étais fixé à peu près 1 mois par pays. Donc je suis parti au Cambodge, puis 1 mois en Thaïlande, la Birmanie, Singapour, Hong Kong, le Vietnam, la Malaisie, et puis pour finir sur la Chine. Et finalement, j'ai tiré ensuite jusqu'au Canada et aux États-Unis. Mais voilà, c'est vraiment l'Asie du Sud-Est qui m'a marqué, particulièrement la Thaïlande. Donc c'est ça que je vais tenter de raconter aujourd'hui en essayant d'avoir un retour d'expérience utile pour ceux qui écoutent. Déjà, la Thaïlande, on appelle ça le royaume de Thaïlande, c'est 70 millions d'habitants, une monarchie constitutionnelle et un roi Rama X. On ne parlera pas de ses excès et ses déboires, mais je vous invite à creuser un petit peu le sujet, c'est plutôt très intéressant. Malheureusement, le roi précédent, son père, Rama IX, après 70 ans de règne, est décédé fin 2016, et son fils a pris la succession aussi fin 2016. Pour reprendre un petit peu l'historique, je suis sur les îles dans le sud du Cambodge. On est le 3 décembre, une pluie monstre s'abat un petit peu sur Sihanoukville, au sud du Cambodge. Déjà, Sihanoukville, avec un grand soleil, c'est pas terrible, mais avec une pluie battante, ça donne envie de fuir tout de suite. Et donc je suis parti pour 16 heures de bus, direction Bangkok, pour ensuite avoir ma première expérience dans une immigration terrestre. Après avoir eu l'immigration à mon arrivée à l'aéroport, j'ai eu l'immigration terrestre à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Donc première immersion très longue, avec une file d'attente qui n'en finit plus, une certaine incertitude. On se pose des questions, est-ce qu'on va pouvoir aller dans l'autre pays, est-ce que le voyage s'arrête ici? Donc voilà, une expérience assez inédite, en tout cas stressante. On reprend la route, et là, c'est assez bluffant. La Thaïlande est un pays plus riche que le Cambodge, et ça se voit par rapport à la qualité des voitures, à la qualité des routes. Et on arrive sur une 2x2 voies, et un peu une sensation de vertige. On n'a déjà plus l'habitude de toutes ces choses-là, la vitesse des voitures et la grandeur des routes. Comme quoi le corps même notre vision s'habitue assez vite à un environnement. Finalement, j'arrive le lendemain, le 4. Et puis, bon, je suis quelqu'un de plutôt solitaire, mais la Thaïlande, je ne sais pas, donne des ailes et je termine en boîte de nuit dès le premier soir. Donc le cliché peut-être de Bangkok qui ne s'endort jamais, qui vit beaucoup la nuit, ça c'était coché. Le lendemain, eh bien, c'est l'anniversaire du roi Rama IX, comme je vous ai dit, décédé en 2016. Et ce 5 décembre, c'est la fête des pères en Thaïlande, fête nationale, férié tout le week-end. Et la plupart des commerces sont totalement fermés, la ville est un petit peu paralysée, et je suis à l'arrière d'un tuk-tuk, et bien d'un coup, au feu rouge, tout s'arrête. Les gens baissent un peu le regard, et je les ai comptés ensuite, parce que j'ai filmé toute la scène, plus d'une centaine de Mercedes rouges passent dans le boulevard, et l'une des dernières voitures, une très très vieille voiture toute beige, et bien le roi était dedans, le fils du roi dont on fêtait l'anniversaire,
et c'était assez exceptionnel. Et voilà, est-ce que c'est la chance, le destin, on sait jamais, mais on se dit voilà, on est toujours chanceux, et en tout cas on peut voir de la chance nous arriver comme ça, des petits dons. Et ben voilà, j'ai vu le roi de Thaïlande pour mon premier vrai jour là-bas, et c'était assez incroyable. Et aussi décrié soit-il et sulfureux, ça reste quelque chose assez incroyable. Ce jour-là, en tout cas ce week-end-là, tout est assez fermé, tout est recouvert de draps jaunes, qui est la couleur finalement de cette journée, et il y a des portraits du roi décédé, Rama IX, un petit peu partout. Et voilà, on croise beaucoup d'officiels, c'est un pays très militarisé, ils ont subi beaucoup de coups d'État depuis une centaine d'années, et on le ressent vraiment, on le ressent dans le regard des Thaïlandais qui baissent peut-être les yeux quand ils croisent le roi, par exemple. On n'a normalement pas le droit de le filmer non plus, pas le droit de s'approcher. C'était assez, voilà, une expérience assez incroyable, et ça remet en perspective, ça fait quand même réfléchir. Donc Bangkok, une ville incroyable, une fourmilière remplie de gratte-ciel à côté de très vieux temples, une histoire assez incroyable, et on s'y sent aspiré. Il y a plusieurs villes dans la ville, et pour le coup, j'ai jamais connu, à part Paris, de ville qui m'a apporté autant d'émotions que Bangkok finalement. C'est à chaque fois, voilà, Paris, ça reste Paris, et pour moi la plus belle ville du monde. Mais Bangkok, on s'y approche très fortement. On sympathise très vite avec les gens, et on y reviendra peut-être, mais voilà, des gens de passage, des gens qui marquent et qu'on ne recroise jamais, des gens qui marquent et qu'on a l'occasion de recroiser. Donc c'est une ville un peu au carrefour de l'Asie, et qui dessert vraiment tout le continent, ou en tout cas l'Asie du Sud-Est et jusqu'à la Chine. Et c'est très très inspirant. Et moi qui étais à cette période, on pourrait appeler ça digital nomade, le fait de se retrouver dans des cafés et de voir d'autres personnes sur leur ordinateur, il y a une sorte de point commun, et on arrive auprès de ces gens et on a tout de suite une conversation, quelque chose à se dire, et ça fait vraiment du bien là où en France on ne salue plus la personne qu'on croise dans la rue, et on est de plus en plus solitaire. Et ben le fait d'être perdu, de pas être chez soi, on se raccroche à des visages qui nous sont familiers, à des activités qui nous sont familières, et il y a tout de suite des points de contact qui permettent de nous montrer qu'on est bien humain et qu'on dépend bien des autres, et que c'est dans les autres aussi qu'on apprend. Donc ça fait vraiment du bien, et ça permet en France ensuite de revenir et d'avoir envie de saluer les gens qu'on croise dans la rue, de parler avec son taxi. Enfin voilà, c'est encore, je pense, une bonne leçon que m'a permis l'Asie. Pour parler un tout petit peu de la partie digital nomade, parce que je pense que ça peut aussi intéresser. J'avais 5 ou 6 clients à peu près dans la communication. Je gérais les réseaux sociaux et les sites internet de sportifs de haut niveau. Et j'avais conservé cette activité qui me permettait d'avoir un revenu environ de 2000 euros par mois. Et ce qui était très large pour l'Asie, j'avais un tout petit peu réduit mon volume. Ça permettait quand même de rester en activité, parce que je ne me sentais pas touriste ou en vacances en fait. Et ça, les gens, mon entourage a eu du mal à le percevoir d'ailleurs. Mais voilà, je me sentais à ma place et dans un environnement que j'avais voulu et une vie que j'avais voulu, mais voilà, en travaillant de manière peut-être, en tout cas qui ne coche pas les cases, mais heureusement qu'on n'a pas besoin de cocher toutes ces cases. Ce voyage ramène au temps présent, et on ne sait jamais où est-ce qu'on sera le lendemain. Pour ma part, je savais où j'allais dormir le soir même. Mais le lendemain, vraiment, s'écrit grâce aux rencontres ou aux non-rencontres aussi. Voilà, il suffit de voir un article, de lire un blog, de croiser quelqu'un, et puis d'un coup, le voyage prend une autre tournure. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et donc, on est le 9 décembre, et je m'envole pour Chiang Rai, au nord de la Thaïlande. Alors, j'avais rencontré virtuellement Marine de Voyager Autrement, qui m'avait proposé de venir dans son nouveau village à côté de Chiang Rai. Et donc j'arrive à Chiang Rai, puis je prends un taxi pour aller chez cette fameuse Marine. Je vais prendre un petit peu de temps là-dessus, parce que je pense que ça a été vraiment une des plus belles expériences de tout mon voyage, qui a duré au total 7 mois. Marine, qui est une Française et qui avait fait il y a quelques mois le même voyage que moi finalement, et qui est tombée amoureuse d'un Thaïlandais et qui vit dans une ethnie Karen, qui est une ethnie, si je ne me trompe pas, qui est côté birman et qui s'est réfugiée dans le nord de la Thaïlande, à côté du Triangle d'Or. C'est assez incroyable, on voit trois pays en un seul lieu avec le Laos, la Thaïlande et le Myanmar ou la Birmanie, les deux se disent, même si officiellement ça s'appelle le Myanmar. Et donc j'arrive chez cette marine qui a tout plaqué pour vivre avec son petit ami et sa famille. Et je la trouve extrêmement courageuse. Elle a tout plaqué pour vivre sa vie loin des siens, auprès de sa seconde famille qu'elle a tout de suite adoptée. Et grâce à elle, une véritable économie s'est créée dans le village. Elle a créé un homestay. Sa belle-mère, la mère de Dédé, son petit ami, brodait, en tout cas tissait des colliers, des bracelets, des choses comme ça qu'elle revendait ensuite. Elle a amené une économie saine dans le village et une ouverture sur le monde, entre guillemets, puisque Dédé n'avait jamais pris l'avion, n'était jamais allé à Bangkok. Et grâce à Marine, il a pu découvrir ça et il est par la suite venu en France. Et donc, Marine, de Voyager Autrement, m'a accueilli et m'a hébergé gracieusement. Et en échange, j'ai participé aux tâches et j'aidais les hommes de la famille pendant toute cette petite semaine. Et on revient finalement à ce qu'il y a de plus primaire, puisque j'ai eu l'impression dans ce voyage que ce qui a tout détruit, en tout cas ce qui a modifié vraiment notre existence, ou en tout cas les paysages et les cultures, et ainsi de suite, plus que la religion, c'est l'argent. Et bon, je disais tout à l'heure, grâce à Marine, une certaine économie s'est créée dans le village, mais... J'ai bien précisé saine, parce que c'est vrai que l'argent rend fou et l'argent fait détruire, fait construire, fait beaucoup de mal, je pense. Et là, on arrivait dans un village où il y avait presque pas d'argent, beaucoup de troc, et ça a fait un bien fou. Et en fait, on devait construire une maison pour la grand-mère qui commençait à être assez dépendante, et donc il voulait faire une maison de plein pied pour elle. Et finalement, je ne pensais pas qu'on allait procéder de la sorte, mais on est parti dans la jungle, on a coupé une trentaine de bambous. Ces bambous nous ont servi à faire un radeau. On a redescendu quelques kilomètres sur les bambous dans la rivière pour s'arrêter au village finalement, et puis faire les derniers mètres à pied avec le bambou. Certains bambous servaient pour les fondations, d'autres pour les murs. Et en fait, voilà, une maison est née en une semaine de bambou. Et puis dès qu'on avait faim dans cette jungle, avec un bruit d'insectes, de bêtes absolument dingues, que j'avais vraiment jamais entendu ça, j'avais faim, il montait en haut d'un arbre couper X fruits, et puis on le partageait. On avait soif, on allait, on cherchait une petite source, et puis Dédé, le copain de Marine, me faisait un petit... Il coupait un petit bambou et puis il m'a offert un verre qu'il m'a fait directement en bambou dans la jungle et que j'ai toujours précieusement avec moi. Enfin, voilà, on revient à une vie assez incroyable. Alors, ça a été une des expériences les plus formatrices et où je me suis pris une claque vraiment. Après, les choses évoluent et Marine et sa famille essayent de dynamiser ce petit village. Et petite anecdote aussi, le père de Dédé est prêtre, puisque les Karen sont chrétiens, donc c'était assez sympathique aussi de vivre ses prières avant chaque repas en thaï. J'ai vraiment passé des très bons moments et si vous avez l'occasion d'aller dans son homestay, c'est vraiment un endroit que je conseille. Donc la suite bouge un peu dans le sens où les pluies torrentielles en Thaïlande, mais surtout un petit peu plus dans le sud, l'Indonésie, la Malaisie, font que avec Marine, on se connecte un petit peu sur Internet et puis on cherche et finalement je suis proche de la Birmanie et je me dis mais je vais pouvoir aller en Birmanie finalement, est-ce que ce serait pas un beau plan B pour fuir entre guillemets la saison un peu des pluies qui s'annonce en Indonésie. Et du coup, voilà, je sais à partir de ce moment-là que ma prochaine destination sera la Birmanie. Et donc, la suite du voyage, je retourne à Chiang Rai, on est le 14 décembre, et puis, sur les conseils de Marine, encore une fois, je, je vais dans un sanctuaire d'éléphants, un animal qui m'a toujours énormément plu, attiré, impressionné, et je lui avais fait part de ça, et puis ma marraine m'avait dit effectivement, il y en a beaucoup en Thaïlande, mais il faut faire attention, tu peux très vite tomber dans quelque chose de purement commercial, attrape touriste et qui ne respecte pas l'animal, et ça vraiment je m'étais même presque interdit d'aller à la rencontre de ces animaux en captivité finalement. Et elle me dit non, j'ai ma belle tante qui a un sanctuaire qui en prend vraiment soin, et ce sont des éléphants retraités de travail auprès de l'humain dans la jungle, dans la terre, et qui vivent une retraite paisible. Et donc je suis parti un peu à leur rencontre, et c'est là que je suis tombé d'abord, assez drôle, sur deux dames, une soixantaine d'années, avec qui on avait des amis en commun, et du coup là je me suis dit ok, le monde est vraiment petit. J'ai aussi fait la rencontre de Célia et Émilie, deux jeunes Toulousaines, formidable rencontre, et finalement on a décidé de continuer le voyage ensemble, donc on a ensuite été visiter Chiang Rai, plus en profondeur parce que je ne l'avais pas encore fait, tous ces temples, le temple bleu, le temple blanc, et puis le triangle d'or, on a loué une voiture et on s'est un petit peu baladé là-bas, donc c'était vraiment formidable. Ensuite on va à Chiang Mai. Chiang Mai, c'est 3h30 de bus de Chiang Rai. Donc on visite Chiang Mai, qui est quand même, je crois, la deuxième ville thaïlandaise, il me semble, je ne suis plus sûr, mais qui est une ville assez, assez carrée, avec des sortes de ruines qui font office d'anciennes fortifications. Et donc on passe quelques jours à Chiang Mai avant d'aller à Pai. Et là, Pai, c'est vraiment une de mes plus belles découvertes aussi de la Thaïlande. On est plutôt en altitude, et d'ailleurs la route de Chiang Mai à Pai est très sinueuse et ça monte beaucoup et ça donne un petit peu le tournis, donc on arrive là-bas un petit peu secoué dans un endroit assez paradisiaque avec des sortes de canyons avec de la terre très fine et puis très blanche, et voilà, on prend un scooter et on se balade dans toute cette ville et ce canton, et c'est vraiment un endroit que je conseille toujours parce que, encore une fois, comme dans toute la Thaïlande, c'est très facile d'accès. On prend un scooter et on est absolument libre de faire tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup d'hostels. Puis là-bas, ce qui m'a surtout marqué, c'est des 15 heures, des stands de nourriture s'installent un petit peu partout. Et on peut manger mexicain, on peut manger des lasagnes, on peut manger plein de choses. Et c'est assez drôle de voir ça, voilà, ils sont quand même très ouverts sur le monde, et puis il faut pas se cacher, ça amène aussi une économie, et ça attire beaucoup de voyageurs, de touristes, et donc c'est très sympa de se balader la nuit tombée à Pai et de déguster deux voire trois plats, donc on peut très vite prendre du poids quand on est à Pai. Et donc ensuite on décide de retourner à Bangkok, puisque c'est cette ville qui dessert un petit peu tout, donc voilà, c'est un peu une étape obligatoire, donc on reprend cette fois-ci un bus, 12 heures de bus en direction de Bangkok, et là voilà, les bus, ça sert vraiment à coller sa tête contre la vitre. Il fait nuit, donc on peut pas admirer le paysage, mais on fait le vide, on réfléchit avec de la musique dans les oreilles, et les moments de bus, ça a vraiment été des moments assez assez incroyables pour le coup. Limite émouvant parfois, même très souvent. Et c'est des moments où vraiment on se dit qu'on a fait le bon choix, qu'on est en train de vivre quelque chose de formidable, et on pense à des bonnes résolutions. J'ai dû me dire, peut-être qu'il faut qu'en rentrant, j'écrive plus à mon père, que je revoie cette personne. C'est vraiment des moments où assez incroyables. Et je recommande vraiment ce moyen de transport. On arrive de nouveau à Bangkok après ces 12 heures, et là on découvre un Bangkok un petit peu plus décoré pour Noël, parce que finalement il fête quand même Noël comme il se doit, et on retrouve des Pères Noël sur des scooters, il fait 30 degrés, 35 degrés, on voit des Pères Noël déguisés un petit peu dans les villes, des beaux et gros sapins dans les gros centres commerciaux, et on décide de se faire un cinéma. Et ça, encore une très belle expérience. Je m'étais donné comme objectif, oui et non, en tout cas comme chose à faire, de tester les cinémas un petit peu dans tous les pays. Et pour la troisième fois du coup de ce voyage, j'allais voir Bohemian Rhapsody, puisque c'est un film que j'ai trouvé formidable et que j'avais eu la chance de voir juste après sa sortie, directement dans l'avion. Et donc on est allé le voir dans un grand cinéma, et là-bas, assez incroyable. Ce sont des canapés individuels ou pour deux personnes, et en fait on regarde la séance allongée, on peut se faire masser, se faire livrer de la nourriture, et chose assez, assez incroyable, eh ben, on a 3 minutes d'un clip promotionnel de la monarchie, du roi, et l'hymne qui est joué. Chaque film commence par une mise en avant de la monarchie et du roi Ramadis. Et c'est assez, assez déroutant. Et voilà, les expériences, finalement, elles ne passent pas que faire des activités qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire en France ou en Europe, mais elles passent aussi par faire des activités dont on a l'habitude en Europe, mais qui, par certains codes, par certains aspects, changent totalement. Et c'est plutôt très riche. Les jours d'après, on se rapproche dangereusement de Noël, et puis on découvre un Bangkok avec beaucoup plus de touristes, j'imagine, parce que certaines personnes acceptent ou en tout cas cautionnent de partir une semaine à l'autre bout de la planète, et du coup se retrouvent à Bangkok pour ces fêtes. On passe les fêtes dans un restaurant français avec une vue magnifique sur la ville, et c'était vraiment un chouette moment. Pas difficile de passer les fêtes loin de sa famille, finalement. Se dire qu'on passe les fêtes au chaud, c'était assez incroyable pour le coup. Et passer l'hiver de manière générale au chaud, je conseille, et je pourrais vivre ça toute ma vie sans problème. Le 24 au soir passe, on pense quand même à écrire à toute sa famille et à donner des nouvelles comme je le fais tous les jours, notamment à ma grand-mère qui s'inquiétait beaucoup. Et puis, on profite là pour le coup avec un rythme de vie un peu plus occidental en tout cas. Et puis je retente l'expérience d'une boîte de nuit, et ça fait vraiment du bien d'être à l'autre bout du monde et de pouvoir aussi faire ce genre d'activité sans le regard de l'autre sur soi. Et pour le coup, c'est peut-être dans ce pays où j'ai commencé à m'accepter en tant que moi-même, et notamment en tant qu'homosexuel. Et ça m'a vraiment, vraiment fait beaucoup de bien, je pense, ce voyage. Et je pense aussi, voilà, c'est très personnel, mais je pense que ça... Si ça peut faire le tilt aussi à ne serait-ce qu'une personne, il suffit de changer d'environnement pour s'accepter, peu importe ce qu'on est et qui on veut être, et revenir en homme avec un grand H nouveau, et s'assumer auprès de son entourage, ou en tout cas dans son environnement habituel. Et donc on finit l'année un petit peu en beauté, puisque on part pour un grand et long périple de 18 heures de trajet pour Koh Phangan. Donc on va dire que c'est un voyage à l'aventure, mais on n'a pas oublié le goût des bonnes choses, entre guillemets, et on reste des jeunes et plutôt fêtards. Et du coup, je n'avais jamais entendu parler de cette full moon party du nouvel an, mais je suis allé la tester, et puis tester aussi cette île qui permet de se reposer à la fin d'un mois en Thaïlande. C'est plutôt agréable. Notre cercle d'amis s'agrandit, et on devient très amis avec un couple ils ont la soixantaine, d'Israéliens. On passe des moments absolument formidables, et on loue une voiture et on part un petit peu voir les falaises, les cascades, on part un petit peu dans la jungle, et on se dit, voilà, il n'y a pas d'âge pour voyager. On est citoyens du monde avant tout, ils sont israéliens, ils nous invitent dans leur pays. Mes deux amis sont toulousaines, je suis du nord de la France à Langres précisément, et tous d'horizons différents, on a tous des parcours différents, des âges totalement différents. Ils ont la soixantaine et ils ont une fraîcheur, une jeunesse, une joie de vivre qui fait vraiment du bien. Et ça, c'est des rencontres aussi, aussi très marquantes. Puis ensuite, la full moon party arrive, l'île se transforme. On peut pas fermer les yeux. J'ai eu beaucoup de mal au début en Asie de fermer les yeux sur les déchets, par exemple. En France, dès que je vois un déchet, je le ramasse. Là-bas, il faut accepter de faire abstraction de ce genre de choses. Alors effectivement, soit on se dit qu'on veut révolutionner le monde et on va lancer là-bas, on va militer pour qu'il y ait une gestion des déchets, pour qu'il y ait de la pédagogie auprès des populations qui ont toujours eu l'habitude de fonctionner avec des matières naturelles et qui pouvaient jeter par conséquent dans la planète, et où du jour au lendemain on leur met du plastique entre les mains et on leur dit que voilà, c'est révolutionnaire, c'est sanitairement parlant très intéressant, et qui continue de jeter, et c'est à qui en vouloir et quoi faire, c'est très très difficile. Et voilà, si on veut pas pleurer tous les jours et désespérer, il faut réussir à fermer les yeux sur ça. Et à Copenhague aussi, il a fallu fermer les yeux sur le fait que, ok, c'est un super événement, on s'amuse beaucoup, mais énormément de déchets terminent dans la mer. Il y a quand même beaucoup d'alcool, de drogue, de sexe même. On participe à ça, et pour ma part, je me sentais quand même assez étranger. Ça me fait beaucoup de bien de partir ensuite en Birmanie, qui est un pays encore très préservé, où j'ai pas rencontré beaucoup de personnes. Ça a été un voyage plutôt très seul, qui fait du bien et qui montre un visage de l'Asie du Sud-Est très agréable. Et pour le coup, voilà, la fin de mon voyage en Thaïlande, c'est terminé par... Et ça, je m'en souviendrai très longtemps. Voilà, j'ai quitté l'île de Koh Phangan, 6 heures de bateau allongé, un bateau de nuit, c'était assez original, allongé sur une planche en bois, et puis à dormir tous dans une sorte de cale. Et puis ensuite, encore un bus pour aller jusqu'à la frontière birmane, puis une sorte de petite pirogue pour faire 30 minutes et arriver en Birmanie. Et donc voilà, on se dit, là on rentre dans un pays qui est plus difficile d'accès, et ça, ça permet de prendre le pouls tout de suite du pays. Et c'est vrai que on se rend compte que c'est tout de suite différent. Et les frontières, même si, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je me sentais quand même citoyen du monde, et ben il y a des frontières qui restent et qui marquent une véritable rupture, ou même des fois fracture, d'un côté ou de l'autre. Et du coup, j'ai parcouru pendant un mois ce magnifique pays qui est la Birmanie, et j'ai eu cette chance de vouloir pénétrer dans le pays par l'extrême sud, puisque Koh Phangan est aussi dans le sud de la Thaïlande, et donc dans l'extrême sud, vers l'extrême sud de la Birmanie, et de remonter du sud vers le nord de la Birmanie, mais de partir du point le plus au sud du pays, et il n'y avait absolument personne. Et c'est d'ailleurs la première fois où j'ai dormi dans une chambre individuelle, puisqu'il n'y avait pas de dortoir, pas de café, pas de... Voilà, tous les repères des backpackers ne sont plus là. Et donc, je conseille vraiment de démarrer la Birmanie par le sud. Voilà, donc c'est un peu une petite parenthèse encore birmane, bien que ce voyage était... En tout cas, cet épisode de podcast était dédié à la Thaïlande.
Merci beaucoup pour ton récit. Pourquoi tu as voulu raconter ce voyage en particulier ?
J'ai choisi la Thaïlande parce que ça a été un de mes voyages préférés. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup aimé la Birmanie aussi et la Chine. Mais c'est vrai que la Thaïlande, peut-être parce que ça a été au début de mon voyage, j'y ai appris vraiment beaucoup de choses. J'y ai vécu de nombreuses expériences et j'ai rencontré peut-être la plupart des personnes que je revois encore actuellement et qui sont le fruit de mes rencontres pendant ce voyage de 7 mois. Donc voilà à peu près pourquoi... Pourquoi la Thaïlande ?
Tu dis au début de ton récit que ton voyage se fait en fonction des rencontres et des non-rencontres, et que tu privilégies un petit peu le jour le jour et l'improvisation. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais toujours, ou est-ce que ça t'arrive aussi de prévoir ?
Ça m'est arrivé de prévoir un petit peu, notamment quand j'ai su que j'allais passer le nouvel an à Koh Phangan pour revenir sur la Thaïlande. Mais en général, pour moi... Le hasard, le destin sont assez liés, et je ne le force jamais. En tout cas, jusqu'à maintenant, il m'a toujours permis de vivre des choses formidables dans le sens riche d'enseignement, pas forcément positive, mais en tout cas riche. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et j'ai vu dans mes souvenirs sur Instagram il y a peu, qu'il y a un an, je partais à Cologne en Allemagne. Pourquoi je suis parti, je ne sais pas. Combien de temps je l'ai décidé à l'avance, très peu. Et puis finalement, ce que j'allais faire sur place, je ne le savais pas non plus. Je n'ai pas de guide du routard avec moi. Je ne me documente qu'avec les articles de blog, parce que je trouve que c'est le plus fiable, ou en tout cas le plus authentique. Et je lisais beaucoup, je croisais beaucoup les informations dans, dans les blogs. Et finalement, c'est ça qui me... Ben, qui m'inspirait, ou directement sur place auprès des populations. Et pour parler de Cologne, et ben, j'ai découvert que je pouvais prendre une sorte de TER et puis aller me perdre dans une montagne pas très loin. Ben, je l'ai fait un aller-retour dans la journée sans savoir vraiment que j'allais finir là le matin même. Donc je pense que le plus important, et c'est peut-être une épreuve au début de se l'imposer, mais c'est de laisser ton environnement parler pour toi.
Qu'est-ce que tu prendras toujours avec toi dans ton sac quand tu voyages ? Ça ne sera pas un routard, du coup ?
Ça, c'est une question vraiment difficile, parce que pour le coup, j'avais pris beaucoup trop de choses pour mon voyage en Asie. Et d'ailleurs, je suis parti avec une valise assez lourde, mais qui a été plutôt pratique. Parce que pour le coup, quand on prend des tuk-tuk ou autre, et ben c'est toujours le chauffeur qui très gentiment vient porter ton bagage ou autre. Et ben pour le coup, ça ne m'a pas du tout... handicapé, bien au contraire. Par contre, j'avais amené une multiprise et d'autres choses que j'ai lâchées au bout d'un moment pendant le voyage. Je ne sais pas s'il y a quelque chose... Alors oui, évidemment, mon téléphone. J'ai entendu il y a peu dans un de tes podcasts une personne qui était partie sans téléphone, sans appareil photo, sans rien. Voilà, j'ai toujours mon téléphone et mon ordinateur. Si, c'est peut-être ça, effectivement, que j'amène toujours avec moi.
De quelle manière tu vas raconter et documenter tes voyages ? Est-ce que tu as un médium préféré pour le faire ?
Mon médium préféré pour le faire publiquement, entre guillemets, c'était Instagram et puis WhatsApp pour ma famille. On avait installé WhatsApp à ma grand-mère parce qu'elle était assez triste que je parte et elle a finalement été ravie d'avoir... Je lui ai envoyé des photos tous les jours. Et Instagram, effectivement, m'a permis de tenir une sorte de journal intime et j'en suis très content maintenant parce que... J'ai de plus en plus de souvenirs qui s'effacent de ce voyage et je me suis dit c'est le moment de l'écrire. Et donc je retourne dans mes archives de story Instagram, sur les groupes Facebook, les Français au Cambodge, toutes ces choses-là. Et je recherche toutes ces informations, même dans les messages que j'envoyais à ma mère pour raconter les journées. Et j'essaie vraiment de le poser noir sur blanc. Et du coup, bon, j'espère que ça fera une sorte de journal de bord avec beaucoup de recul, avec plus de 2 ans de recul maintenant. Mais qui me permettra de m'y replonger plus tard et de graver tout ça, quoi.
Comment tu considères les rencontres en voyage ? Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué au cours de tes voyages ?
Pour moi, elles sont très très précieuses. Et encore une fois, j'ai voyagé seul et je pense que c'était la meilleure idée possible. Puisque, encore une fois, du coup, on est maître de nos rencontres et on ne s'en impose pas une du début à la fin, et j'ai bien souvent croisé des couples que j'ai recroisés seuls dans un autre pays, enfin séparés plutôt, 1 ou 2 mois plus tard, ou des amis qui se sont un peu tiraillés. Je pense que le voyage, l'aventure, c'est avant tout pour découvrir le monde et à travers ça se découvrir soi-même. Et voilà, premièrement, je pense que les rencontres doivent être volontaires et naturelles, ça ne doit pas être subi. Et elles ont pris une place assez importante dans le voyage, notamment les deux filles que j'ai rencontrées en Thaïlande, que je suis retourné voir il y a peu à Toulouse. On a mangé ensemble un bon plat de pad thaï qu'on a cuisiné tous les trois et c'était des moments formidables. Je revois aussi Corentin que j'ai vu au Vietnam. Peut-être que 2 heures, on a partagé un cookie ensemble dans un café et finalement c'est quelqu'un avec qui je suis devenu très proche. Maxime à Cancale qui m'a accueilli pendant plus d'une semaine, et puis des rencontres aussi plus qu'éphémères, notamment une qui m'a marqué où j'ai parlé pendant 3 heures avec quelqu'un dans un bar et ça a été très très puissant. Et finalement on a mutuellement décidé qu'on arrêtait là, quoi, que on s'est pas pris nos numéros, on a rien fait, mais juste on a vécu un formidable moment et voilà, on n'a pas forcé le destin. Et ça a été très riche sur le moment présent, mais je ne sais même plus son nom, son prénom, mais voilà, il y a toutes ces rencontres et ces non-rencontres, comme je disais tout à l'heure, finalement, qui font qu'on est des êtres humains dotés de sensibilité, quoi.
Une fois que tu es de retour au pays, est-ce que tu es atteint du blues du voyageur ? Et si c'est le cas, comment tu te soignes ?
Je ne sais pas si c'est dû au voyage... Je pense que c'est dû au mouvement. En tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup de mal à rester isolé, en tout cas statique, très longtemps. Je pense que c'est surtout le fait de passer d'un mode de vie très actif à un mode de vie un petit peu plus au ralenti qui fait qu'on perd nos repères, on n'est plus dans la même temporalité, et c'est ça qui est perturbant. Alors oui, je suis atteint de ce syndrome, mais pas qu'en voyage finalement. Après 6 mois à habiter dans la capitale, à Paris, et retourner à la campagne, et ben il faut un temps d'adaptation. Mais fort heureusement, on se réacclimate très vite aux choses.
Est-ce que le fait d'être une personne homosexuelle, ça va impacter la manière dont tu voyages ou la façon de préparer tes voyages?
J'avais pas pensé à ça avant que tu me poses la question. Finalement, je ne pense pas que ça l'impacte, comme peut-être une femme se dise, est-ce que je dois aller dans cet endroit, est-ce que c'est safe d'être seule, est-ce que c'est safe d'y aller à telle heure, tel jour, dans telle tenue. Ça, je ne pense pas. En tout cas, je me suis jamais senti aussi libre, et moi-même en Asie, de toute ma vie. Ce champ des possibles qui m'était offert m'a permis de vivre à 3000%. Après, j'ai quand même l'impression que l'homosexualité m'a permis d'être, de mûrir, en fait, d'être plus rapidement un homme, d'être confronté à des discriminations en France, d'être jugé, d'avoir peur aussi. De manière générale, c'est une force, c'est vraiment une force. Voilà, si ça a eu un impact sur mes voyages, je pense que ça m'a permis, ça me permet tous les jours finalement d'être toujours plus à l'écoute des autres, de doter d'une sensibilité et de me dire que tout est possible pour tout le monde et qu'il faut surtout pas juger les autres, quoi. Après, je ne me dis pas, je ne vais pas dans ce pays parce que je suis homosexuel. Je suis allé à Singapour où l'homosexualité est punie logiquement très sévèrement, mais de moins en moins. On s'adapte.
Pour se parler du futur maintenant, quels sont tes projets?
C'est difficile de parler de projet. Pour le moment, mon principal projet, c'est dans les médias, où j'ai signé un nouveau contrat et qui me sédentarise un petit peu pour quelques temps. En tout cas, j'ai hâte de retourner en Asie, de visiter la Corée du Sud, le Japon, et de retrouver tout ça. Mais en attendant, et je pense que c'est important de le souligner, la France est un pays absolument magnifique, doté de paysages divers et variés qu'on peut retrouver aux quatre coins de la planète. Et je pense vraiment que dans cette période, il faut qu'on réapprenne à... j'aime bien cette phrase d'Aurel San qui dit « Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. » Et la terre est ronde pour ça, finalement, pour revenir à l'essentiel, qui nos racines. On est de plus en plus citoyens du monde, il y a de moins en moins de frontières, on peut aller n'importe où. Mais finalement, notre cœur, il est toujours là, là où on est né. Et je suis fier d'être français, d'être langrois. Voilà, j'ai jamais autant apprécié ma ville que depuis que je suis rentré d'Asie. Et ça, je trouve que c'est formidable de partir aussi loin et de se dire qu'en fait, on a aussi touché soi, et notre œil neuf nous permet de l'apprécier à sa juste valeur.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien, où tu as un petit espace à toi qui t'est réservé, dans lequel tu peux partager une anecdote, une recommandation, une citation, un proverbe. C'est à toi.
Ce sera une anecdote mêlée à une phrase de Nicolas Bouvier dans L'Usage du Monde qui m'a marqué. Anecdote parce que ce livre, je l'ai acheté lors d'un séjour à Lille, chez Corentin, que j'ai rencontré au Vietnam. Et on est dans une librairie de voyage que je vous conseille vivement. Une personne qui tient ça, qui est absolument incroyable. Et elle m'a dit, moi j'ai créé cette boutique il y a 20 ans, après avoir lu L'Usage du Monde de Nicolas Bouvier. Et je lui ai dit, bon, est-ce que vous l'avez? Elle a dit oui. Je lui ai acheté, j'ai écrit ce moment à la fin du livre. Je me suis dit, voilà, c'est encore une rencontre magnifique, on a parlé de beaucoup de choses. C'est un peu quelqu'un qui vit dans sa librairie comme il vivrait dans une grotte, pas trop communicatif, mais dès qu'on commence à parler de voyage au sens noble, le voyage et non pas le tourisme, je pense que qu'il y a une certaine différence. Cette personne s'est ouverte, s'est livrée, et j'ai été fier presque de lui avoir acheté ce livre, qui est la fondation de toute sa boutique. Et donc, je ne l'ai pas encore fini, j'en suis au début, mais j'ai déjà noté quelques passages qui sont assez formidables. Le passage là contredit ma vision du voyage, puisque je pense qu'on peut voyager même depuis son canapé finalement, et dans ces temps confinés, voyager à travers un livre, voyager en France, voyager dans notre propre commune, voilà, tout ça c'est possible. Mais Nicolas Bouvier a une autre conception et je la trouve tout de même magnifique et je vais juste la lire du coup. À mon retour, il s'est trouvé beaucoup de gens qui n'étaient pas partis pour me dire qu'avec un peu de fantaisie et de concentration, ils voyageaient tout aussi bien sans lever le cul de leur chaise. Je les crois volontiers, ce sont des forts, pas moi. J'ai trop besoin de cet appoint concret qu'est le déplacement dans l'espace. Heureusement d'ailleurs que le monde s'étend pour les faibles et les supporte, et quand le monde, comme certains soirs sur la route de Macédoine, c'est la lune à main gauche, les flots argentés de la Morava à main droite, et la perspective d'aller chercher derrière l'horizon un village où vivre les 3 prochaines semaines, je suis bien aise de ne pouvoir m'en passer. Je trouve ça formidable, effectivement, la Terre est nôtre, en fait, la Terre avec un T majuscule, et parcourons-la, respectons-la, et parcourons-la, et je pense que c'est une magnifique phrase, citation pour finir un podcast de voyage.
Merci beaucoup. Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi écouter Bourlinguer sur la web radio Voyage, Allô la planète. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui.